Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Évangile selon Jean, chapitre 16, verset 33, c'est Jésus qui s'adresse à chacun d'entre nous, à travers tous les temps, et il dit ceci: « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Alors c'est un message de réconfort que nous allons entreprendre ce soir, parce que c'est toute la nature finalement du combat de la foi. On peut peut-être le présenter de cette manière. Et Jésus avait donné naturellement quelques informations qui précèdent ce verset par rapport à tout simplement ce qu'il allait advenir de lui, ce que les hommes feraient de Jésus. Et on le sait, ça fait partie de la passion du Christ. Mais il veut donner une dernière parole à ses amis, à ses disciples, à ses compagnons. Il dira: je vous ai dit toutes ces choses afin que vous ayez la paix en moi, parce que on peut avoir toutes sortes de soucis et toutes sortes de difficultés. Et une chose qui est essentielle, c'est la paix. Parce qu'il peut y avoir des vagues, il peut y avoir des ouragans, il peut y avoir des tumultes autour de nous. Mais si à l'intérieur de nous-mêmes, nous sommes dans cette paix de Dieu, cette paix de l'esprit dans nos pensées, alors à ce moment-là, les tempêtes peuvent se déchaîner et nous restons tout simplement dans la sérénité. Et c'est ce que Jésus veut dire. Et c'est ce qu'il annonce, c'est ce qu'il nous dit et c'est ce qu'il dit à travers tous les temps. Parce que une chose qui est certaine, c'est que à travers les siècles qui se sont écoulés, il y en a eu des difficultés et des problèmes pour les hommes, pour les chrétiens en particulier, dans le monde, à travers toutes sortes de problèmes, de toutes sortes de choses qui sont arrivées. Alors, afin que vous ayez la paix en moi. La paix, elle se saisit par la foi. Nous voyons que une chose qui nous est donnée et qui nous permet de nous approprier ce qui nous est nécessaire, c'est notre foi. Et c'est vrai que c'est difficile. Il faut bien s'en rendre compte parce que quand tout va bien, on peut toujours remercier le Seigneur, lui dire mais c'est formidable, on a une vie extraordinaire. Et c'est justement quand tout va mal que nous avons besoin de la paix. Et la paix, ça s'acquiert. Je dirais, la paix, ça s'apprend. Et il dira ceci, il prévient ses disciples pour qu'ils ne se fassent pas trop d'illusions. Vous aurez des tribulations, vous aurez des épreuves, vous aurez des tentations, vous aurez toutes sortes d'ennemis, des adversaires qui se ligueront contre vous, et vous les aurez parce que vous êtes dans le monde. Et le maintien finalement des chrétiens, ce n'est pas d'être renfermé dans un endroit protégé et puis s'extraire finalement de toutes les réalités de notre monde, de ce qu'il y a dans la vie, tout simplement. Mais il dirait, vous aurez des tribulations dans le monde parce que vous êtes dans le monde. Et le monde, son caractère, c'est de s'opposer finalement à ce que vous croyez, ce que vous êtes et ce que vous vivez, en quelque sorte. Alors vous aurez des tribulations, mais il donne cette exhortation. Il dirait, mais prenez courage. La paix et le courage. Et c'est vrai que ce qui peut nous donner le courage dans les vicissitudes de cette existence, c'est précisément la paix. Tout repose sur notre foi en Christ, qui lui-même va nous communiquer cette paix, et cette paix va nous aider et va nous donner le courage nécessaire de faire face à tout ce qui est difficile. Prenez courage, parce que j'ai vaincu le monde. Et si nous sommes vainqueurs, et si nous-mêmes, nous pouvons nous maintenir, nous tenir debout, prendre des victoires, remporter des victoires, c'est parce que justement il a vaincu avant nous. Et nous allons voir, à travers un autre texte que je vous invite à lire avec moi, que ce n'est pas toujours très facile, et nous allons ouvrir une page où il est question des premiers chrétiens. C'est dans le livre des Actes, au chapitre 5 et au verset 29. Et je vais faire le commentaire, de ce texte, en gardant à l'esprit ce que nous venons de dire, où Jésus dit « Prenez courage parce que j'ai vaincu le monde. Soyez forts. » Et cette force, elle ne peut venir que de votre foi qui va vous communiquer la paix dans les tumultes et dans toutes sortes de choses. Donc, Actes, chapitre 5, verset 29. Alors, nous lisons ceci. Il s'agit de Pierre. Pierre et les apôtres répondirent, parce qu'ils venaient d'être interpellés par les autorités de Jérusalem, les Juifs, qui faisaient la guerre, eh bien, aux premiers chrétiens, et ça durait, et ça dure encore. Donc, Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué, en le pendant au bois, comprenez, en le crucifiant sur la croix. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Ça, c'est important de prendre en considération, eh bien, par-delà ce que nous avons dit précédemment pour introduire notre méditation, parce que il s'agit en quelque sorte, eh bien, des premiers chrétiens qui vont avoir à se mesurer pour affirmer leur foi, pour proclamer leur conviction dans la personne de Jésus comme sauveur et nous l'avons lu comme prince et sauveur. Alors, ils étaient convaincus, hein, Pierre et les apôtres. Il y en avait beaucoup d'autres qui étaient convaincus. Mais on va découvrir à travers le commentaire, c'est que quand le succès, je dis bien quand le succès et la bénédiction rencontrent l'opposition des hommes, être chrétien, c'est d'être courageux, on l'a dit tout à l'heure, et convaincu. Et ce qui nous rend courageux, c'est parce que nous sommes convaincus. Et ça, c'est important. Et on a souvent appelé l'Église primitive. Alors, il n'y a rien de primaire dans tout ça, parce que c'était la première. Et on pourrait penser que quand on dit primitive, pour nous, ça a une connotation un petit peu péjorative. De dire primitive, c'était pas très bien dégrossi. Non, au contraire. C'est que moi, je dis que la foi des premiers chrétiens était certainement encore plus vigoureuse que la nôtre, aujourd'hui, à la fin des siècles. Et peut-être, il nous faut absolument nous replonger dans la lecture de la parole de Dieu, dans, finalement, ce qu'on appelle les actions des apôtres, leur tribulation, leur souffrance, leur emprisonnement. Quand on voit Paul, même Pierre, eh bien, on s'aperçoit qu'être chrétien, à ce moment-là, parce qu'il faut dire que le monde d'alors était dominé par l'Empire romain. Et je peux vous dire que, même s'il y avait, on présentait ça comme une grande civilisation dans le monde d'alors, et d'ailleurs, aujourd'hui, on en parle encore de la civilisation romaine, comme finalement, alors il y a eu la République d'abord et ensuite il y a eu l'Empire, mais c'était, on peut dire, une domination du monde connu d'alors. Et il y avait des choses qui étaient certainement, eh bien, par rapport à des peuples païens, des peuples barbares, un monde qui était certainement au-dessus, sur le plan, au-dessus. Au niveau peut-être culturel, intellectuel et tout ce que vous voudrez, mais la barbarie était la même, faut pas se faire d'illusions. Et cet empire avait étendu ses tentacules, eh bien, sur tout le bassin de la Méditerranée et bien au-delà d'ailleurs. Et on s'aperçoit que finalement, il fallait que les hommes fassent allégeance, tout simplement, eh bien, aux aigles impériales. Et une chose qui était certaine, c'est que tous ceux qui résistaient, ben, ils étaient mis à mort, ils étaient finalement maltraités. On connaît l'histoire de la Rome antique, et on sait très bien que c'était pas par la douceur. Ça, c'est clair. Et il est venu finalement, le christianisme est apparu dans ce monde-là. Et les rois et les empereurs étaient divinisés, c'était eux qui étaient dieux. On devait les adorer. Imaginez-vous que quand l'évangile est arrivé, quand le christianisme a fait son apparition, et que on ne priait plus l'empereur, ou on ne vénérait plus l'empereur, ou pas l'empereur, ou un roi, eh bien, on était finalement là des rebelles, on était en rébellion, et puis bon, ben, il n'y avait pas de quartier, tout simplement. Et l'évangile s'est développé dans ce contexte, d'un contexte d'opposition farouche, un contexte de répression sauvage, et on s'aperçoit que ce soit à travers l'hégémonie de l'Empire romain ou à travers même les Juifs eux-mêmes par rapport au christianisme, eh bien, c'était quelque chose de terrible. Et nous allons voir justement que les raisons, eh bien, nous sont données un petit peu plus haut. On va lire à partir du verset 12, toujours au même chapitre. Et c'est tout simplement ce que j'ai voulu illustrer tout à l'heure en vous disant que le succès et la bénédiction rencontrent à un moment donné, tout simplement, eh bien, là, l'opposition des hommes, quel qu'il soit, d'une façon ou d'une autre. Alors on va commenter en prenant le verset 12. « Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. » Pourquoi ? Parce que Jésus les a envoyés, parce que Jésus les a choisis, parce que Jésus les a équipés en disant « Allez par tout le monde et proclamez la bonne nouvelle à tout le monde, à toutes les nations. » Et c'est ce qu'ils ont fait. Mais vous remarquerez que dans le même chapitre de l'évangile de Marc, il y a une chose, c'est qu'il nous est dit qu'ils allèrent partout, les apôtres. Et avec les moyens de l'époque, hein, c'était la marche à pied, tout simplement, hein, ou le bateau pour traverser les océans. Mais toujours est-il qu'ils sont allés, il nous est dit que le Seigneur travaillait avec eux par des signes, des miracles et des prodiges qui les accompagnaient et qui confirmaient la parole dont ils avaient le mandat, eh bien, de proclamer. Et nous nous retrouvons quelque temps après la résurrection de Jésus et son ascension au ciel. Donc les apôtres sont investis de cette mission d'évangéliser le monde entier avec tous les risques que ça peut avoir. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. C'est-à-dire que on comprend, Jésus avait dit « Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris » et puis toutes sortes de choses semblables. Alors, un véritable succès, quelque chose d'extraordinaire qui montrait que la parole de Jésus, eh bien, était là une parole de véracité, que ce que Jésus disait, ce que Jésus avait donné aux apôtres, ce qu'il les avait envoyés de dire et de faire, eh bien, ça s'accomplissait. Et les gens étaient médusés, parce qu'ils se disaient, mais c'est quand même une parole de vérité, puisque ce qu'ils annoncent, ce Jésus, eh bien, ils nous disent qu'il est mort, qu'il est ressuscité, et que maintenant son esprit, eh bien, conduit tous ces hommes qui sont ses disciples, mais nous voyons les faits, les malades sont guéris, les aveugles voient, les boiteux marchent, et puis il se fait toutes sortes de choses, d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans le corps des hommes, dans l'âme des hommes, mais également dans la nature, à travers ce qu'on peut appeler des prodiges, hein, des choses qui sont prodigieuses. Et il nous est dit qu'ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon, et devinez ce qu'ils faisaient ensemble, les disciples. Eh bien, ils priaient. Ils priaient pour que le nom de Jésus remporte le plus grand succès, que véritablement les bénédictions dont ils étaient, eh bien, les annonceurs, eh bien là, véritablement, eh bien, s'accomplissent. Au portique de Salomon, et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Et vous imaginez qu'il y avait cette petite congrégation, on pourrait dire ça, ce petit groupe d'hommes qui avaient fait une expérience extraordinaire de changement de vie, qui avaient reçu un mandat extraordinaire de miracles, de signes, etc. Et il nous est dit qu'à ce moment-là, le peuple de Jérusalem, le peuple qui se trouvait en Israël, donc des Juifs, eh bien, était complètement étonné, émerveillé, voire même. Et il nous est simplement dit, mais à ce moment-là, on commençait à louer les disciples. Alors, c'est pas ce qu'on a fait à Jésus, hein, parce que la foule est versatile. Hein. Un jour, elle dit oui, et puis un jour, elle dit non. Hein. Elle acclame Jésus, et puis le lendemain, elle le crucifie. Mais là, dans cette période où il y a tant de choses, une parole qui vient du ciel, une parole qui s'accomplit, il nous est dit, mais tout le peuple, hein, parce que c'est bien ça, hein, mais le peuple est loué hautement en disant, ce sont des hommes extraordinaires. Maintenant, est-ce que le peuple avait bien compris que c'était pas les hommes qu'il fallait louer, mais c'était celui qui distribuait les dons à ces hommes qui finalement ne faisaient qu'accomplir la volonté de Dieu. Et quand je dis la volonté de Dieu, les Juifs, ils n'étaient pas sots, hein, c'était pas des ignorants. Ils savaient très bien que leur Dieu, le Dieu d'Israël, était un Dieu puissant, tout simplement. Mais on s'aperçoit que, au lieu de se convertir peut-être, au lieu de se prosterner et de dire, voilà, nous reconnaissons que derrière ces hommes, il y a véritablement l'Esprit de Dieu, bah, ils louaient finalement les hommes, et ils ont toujours fait ça. Il nous est simplement rappelé également que le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus, et vous remarquerez que il y avait quand même des gens qui étaient convaincus, hein. Hommes et femmes, il nous est dit, hein, pas des enfants, pas des gens, enfin des petits, hein, je veux dire, mais des hommes qui avaient la capacité de comprendre et de réaliser ce qu'il se passait. Et ils augmentaient, croyaient au Seigneur. Ça, c'est intéressant de croire, parce que le message passait quand même. Pour certains, il y en a qui restaient incrédules, et puis pour d'autres, eh bien, ils croyaient donc dans le nom de Jésus, et il augmentait de plus en plus. Alors vous avez d'un côté le succès, les miracles, les prodiges. Vous avez des gens qui, les disciples de Jésus, les apôtres, ont un message extraordinaire. Et d'un autre côté, finalement, il y a en quelque sorte un transfert de tous ceux qui allaient à la synagogue ou au temple de Jérusalem. Ils suivaient finalement les apôtres et les disciples. De quoi exciter la jalousie, finalement, des autorités religieuses. Et ça a toujours été comme ça, de toute manière, hein. Parce qu'ils avaient le pouvoir, les autorités religieuses. Ils avaient, finalement, pour eux, d'avoir, finalement, le haut du pavé, comme on dit, hein. Et en voyant qu'il y avait de plus en plus de juifs qui se détachaient et qui croyaient au message des apôtres, qui voyaient des miracles, donc confirmation, et de voir finalement que, eh bien, de plus en plus, ce petit noyau d'hommes grossissait finalement à vue d'œil, en quelque sorte, de telle sorte, il nous est dit un peu plus loin, pour vous dire qu'il y avait un climat de foi, un climat de confiance. Il y avait quelque chose qui passait dans cette ville de Jérusalem à ce moment-là, et il nous est une puissance, c'est la puissance de l'esprit, il nous est dit de sorte qu'on apportait les malades dans les rues, et qu'on plaçait, on les plaçait sur des lits et des couchettes, et lorsque Pierre passait, eh bien, ils étaient guéris, ils étaient visités. Alors, ne prenez pas ça pour une doctrine, parce qu'il faut faire attention, il y en a qui ont quelquefois été au-delà de ce qui est écrit, et qui, quelque part, en font une recette, finalement, alors que c'est pas ça. C'est pas Pierre qui guérit. C'est pas même, là, eh bien, son ombre qui guérit. C'est pas les hommes qui guérissent. C'est la foi en Jésus-Christ que Pierre annonçait. Et ça change tout. Parce qu'autrement, ça devient de la superstition. Ça devient une sorte de superstition, et l'évangile ne reste plus dans sa nature pure à ce moment-là. Mais il dévie, il dérive vers quelque chose d'occulte, en quelque sorte, et qui amène toutes sortes de déviations et de confusions. Et c'est ce qui nous est rappelé. Et pour vous dire qu'il y avait un climat de foi extraordinaire, hein, et je veux bien croire que, eh bien là, c'était pas le rayonnement de Pierre qui faisait les guérisons. Mais quelque part, il y avait, on pourrait dire que c'était un temps de réveil, ou un souffle de l'esprit, à ce moment-là. Maintenant, encore une fois de plus, il faut le réaffirmer, c'est quand même le nom de Jésus qui guérit, qui sauve, et qui opère toutes ces choses miraculeuses. Alors, la multitude, on est passé du petit nombre des disciples, qui vont augmenter de plus en plus, et à un moment donné, il nous est dit le mot. La multitude accourait aussi des villes voisines de Jérusalem. Ça ne se passait pas seulement, eh bien là, dans le centre de cette ville, hein, la ville du grand roi, c'est-à-dire la ville de Jérusalem, mais c'était tout ce qu'il y avait tout alentour, là, la banlieue de Jérusalem. Bon, Jérusalem, à l'époque, ça ne devait pas être une ville extraordinaire, hein, certainement beaucoup plus petit que Saint-Nazaire, hein, déjà, quoi qu'il en soit, mais enfin bon, c'était déjà une ville qui avait son importance, mais toujours est-il que c'est une multitude qui accourt, et on amenait les malades, figurez-vous, et des gens tourmentés par des esprits, et tout s'était guéri. Alors, c'est quand même un succès. On se dit, mais c'est formidable. Et c'est ce que je répète encore, il y a le succès, il y a la réussite, il y a la puissance de la foi, il y a là tout un climat qui va se développer, une bénédiction de Dieu, mais tout de suite après, on va le lire, eh bien, il va y avoir la rencontre avec l'opposition. Parce que on peut dire qu'on peut s'émerveiller devant les miracles, devant des choses extraordinaires, l'évangile prêché, mais ça ne plaît pas à tout le monde. Et entre autres, les autorités, les puissants, les hommes et les femmes religieux, enfin les hommes religieux de Jérusalem, hein, appartenant au temple, appartenant aux synagogues, ben, ils ont vu ça d'une autre, une autre façon de voir, hein. Et comme ils ont été pris au dépourvu, on peut dire ça de cette manière, eh bien le seul moyen qu'ils avaient, c'est d'éliminer finalement les apôtres, de vouloir absolument eh bien les évincer, et c'est ce qu'on va découvrir. Verset 17. Cependant, le souverain sacrificateur, c'est-à-dire là, l'autorité prépondérante à Jérusalem, hein, c'était en quelque sorte un pape, hein, faut pas se, hein, le souverain sacrificateur, et tous ceux qui étaient avec lui, à savoir le parti des Sadducéens, ce qui est extraordinaire, c'est que il y avait les pharisiens et les Sadducéens, ils ne pouvaient pas s'entendre entre eux, et quand il s'agissait de détruire le christianisme, ils s'étaient unis. C'est comme l'histoire d'Hérode et de Pilate, vous connaissez l'histoire, hein. D'ennemis qu'ils étaient auparavant, puisqu'il fallait crucifier Jésus, là, ils sont devenus des amis. Et c'est pour vous dire que c'est pas les questions et les clivages religieux qui sauvent, mais c'est Jésus qui nous sauve. Et quelquefois, si vous voulez vraiment mesurer où nous en sommes rendus, dans notre foi, dans notre position finalement de confiance que nous avons en Dieu, c'est que vous allez avoir des ennemis insoupçonnés qui vont se liguer ensemble, même s'ils sont ennemis entre eux, pour finalement, eh bien, la cause d'anéantir l'évangile, d'anéantir votre foi, et de nous réduire à rien. Donc, ils se levèrent, et il nous est dit, la nature de leur courroux, de leur colère, c'est qu'ils étaient remplis de jalousie. La jalousie, c'est une des choses les plus terribles qui existent dans l'humanité. Parce qu'avec la jalousie, on tue. On fait toutes sortes de choses qui sont abominables. La jalousie, ça, c'est le contraire de la raison, c'est le contraire de l'amour, c'est le contraire du respect de... On a vu un petit peu comment notre temps est fait actuellement lorsqu'on voit la sauvagerie et de ceux qui attentent à la vie des autres. Il y a des choses qui sont abominables, mais on est quand même dans un temps et dans un siècle où véritablement la nature des choses, de toutes ces oppositions humaines, des hommes qui s'opposent les uns aux autres, il y a un fond religieux, hein, faut pas se faire d'illusions. D'ailleurs, on en parle de plus en plus. Remplis de jalousie, mirent la main sur les apôtres. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'ils voulaient les faire taire. Là où le miracle réjouit certains, le miracle dérange pour d'autres. Et les rend jaloux et méchants et mauvais. Et donc, ils ont mis la main sur les apôtres, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils sont arrivés probablement avec une escouade de soldats ou de gardes, je ne sais pas. Puis ils ont dit maintenant, elle est terminée. Hein. Circuler, il n'y a plus rien à voir. Donc, ils ont embarqué. Eh bien là, les apôtres, et ils les ont jetés dans la prison publique. Voilà, la prison, c'est pas quelque chose qui est très réjouissant. Enfin, quand vous avez des adversaires, vous les mettez à l'écart, comme ça plus personne n'entend parler d'eux. S'il y a des bonnes portes en fer, et s'il y a des barreaux aussi, hein, comme ça, tranquille. Et c'est arrivé très souvent aux disciples de Jésus, c'est arrivé très souvent dans l'histoire des siècles, hein, à travers les persécutions religieuses. Hein, on a des exemples même dans les racines même de notre christianisme évangélique. Quand, si vous avez lu l'histoire de Marie Durand, hein, à Aigues-Mortes, qui a passé, je crois, 45 ans ou 46 ans en prison, et tout ça parce qu'elle voulait confesser sa foi en Jésus-Christ. Et ça, c'est pas si vieux, c'est pas du temps de Jésus-Christ, hein, c'est il y a 4 siècles en arrière. Hein. Vous vous rendez compte, 46 ans, c'était une jeune fille quand elle était mise en prison. Elle est ressortie, c'était une vieille femme. Hein. Et elle a tenu le coup. Elle a résisté parce qu'on voulait la faire adjurer sa foi évangélique, sa foi en Jésus-Christ. Et elle avait gravé, vous connaissez l'histoire, il y avait une pierre dans sa prison et elle avait gravé en latin « résister ». Ça veut dire « résister » tout simplement. Et elle a résisté. Elle n'a pas capitulé. 46 ans, il faut de la fermeté. Hein. Et il faut avoir véritablement des convictions. Alors, c'est ce qui s'est passé. Ils ont mis les disciples en prison et... Tout de suite après, il nous est dit, mais un ange, et ça c'est intéressant, du Seigneur, je dirais une manifestation divine. Alors, c'est marqué un ange du Seigneur, mais moi je crois que les anges, si nous lisons le livre des Hébreux, la définition, c'est qu'ils ont été envoyés par Dieu pour nous amener finalement eh bien, à être secourus et à hériter le salut. Hein, voilà, donc pour les apôtres qui étaient là, un ange du Seigneur ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir. Et il dit, allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Voilà. Donc, mais Pierre, ça va lui servir parce que quelques chapitres plus loin, Pierre fera une expérience exactement la même chose. Vous savez, quand il est mis en prison et qu'à un moment donné, finalement, les portes s'ouvrent devant lui. Et quand il va se retrouver dans la rue, il va s'apercevoir à ce moment-là, il croit rêver. Il va s'apercevoir qu'il y a une intervention de Dieu. Et moi, je voudrais encore souligner à ce propos que les miracles et les prodiges, eh ben, c'est ça aussi. C'est pas seulement les guérisons, mais c'est des choses qui nous dépassent et des choses qui sont extraordinaires pour nous, qui sont incompréhensibles à la raison et qui font que Dieu délivre ceux qui leur font confiance, tout simplement. Donc, de prisonniers qu'ils étaient, ils se retrouvent maintenant, eh bien, libres et l'ange va leur donner un mandat. Hein, on dit aujourd'hui, on dirait peut-être le Saint-Esprit va parler à leur cœur, mais bon, on va continuer à considérer que c'est l'ange du Seigneur, et il va dire, allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Rien n'arrêtera l'évangile, les persécutions, la méchanceté des hommes, rien ne pourra arrêter l'œuvre de Jésus-Christ, l'œuvre du Saint-Esprit. On le voit, c'est un encouragement pour nous aussi, quand on voit toutes les persécutions qu'il y a. Persécution religieuse, quand on voit les difficultés qu'on peut avoir de l'opposition des hommes, quand il y a parfois, eh bien là, des gens qui considèrent que nous sommes des farfelus, que nous sommes, hein, parce que nous n'appartenons pas à la religion officielle, mais c'est pas une question de religion. C'est pas une question de religion, c'est une question de foi personnelle, authentique, une assurance et une certitude à l'intérieur de nous-mêmes. Un engagement que nous avons pris, c'est pas appartenir à une dénomination religieuse, mais l'annonce qui est faite par l'ange, tenez-vous dans le temple, parce que le temple c'était quand même à Jérusalem, le lieu religieux par excellence. Donc, on vient de leur fermer la bouche, d'une manière miraculeuse, ils se retrouvent libres, et ils ont tout à nouveau le mandat, eh bien, d'annoncer toutes les paroles de cette vie. Qu'est-ce que ça veut dire les paroles de cette vie? c'est les paroles du salut. C'est les paroles de la grâce de Dieu. C'est les paroles qui font dire que si nous croyons en Jésus-Christ, nous sommes sauvés, nous sommes pardonnés nos péchés, et que finalement notre vie est bien changée, transformée, et que nous avons les promesses de la vie présente, mais nous avons aussi les promesses de la vie future. Ayant entendu cela, les disciples, les apôtres, entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner. Voilà, ils étaient courageux quand même. Ils ne se sont pas laissés dissuader parce qu'on les avait jetés d'une manière malpropre et injuste en prison. Là, ils se retrouvent finalement en capacité de pouvoir eh bien, faire leur travail que le Seigneur leur avait demandé. Alors, le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui étant arrivés, convoquèrent le Sanhédrin, c'était le, on pourrait dire, le parlement, hein, c'était vraiment l'instance politique, hein, la plus haute en Israël, et tous les anciens des fils d'Israël prenaient des choses au sérieux quand même, hein, parce que pour réunir un conseil finalement au parlement, voilà, hein, c'était quand même assez... Et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Les huissiers, qui ont été mandatés par les autorités, ne les trouvèrent point dans la prison. Et l'histoire nous est racontée. Ils s'en retournèrent et ils firent leur rapport en disant « Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée. » Oui, il n'y avait pas de défaut des gardes, hein, des surveillants, tout était bien comme ça. Et les gardes étaient devant les portes, mais après avoir ouvert la porte, stupeur, il n'y avait plus personne à l'intérieur. Ouais, plus personne à l'intérieur. Là, ça pose des questions, hein, il a dû certainement y avoir une enquête judiciaire pour savoir ce qui s'était passé, mais le problème va être réglé très vite. Nous n'avons trouvé personne dedans. C'est à quoi tomber sur la tête. Imaginez-vous que la veille, ils les avaient pris, ils les avaient mis, peut-être même enchaînés, on ne sait pas, hein, dans la prison. Enfin, ils les avaient réunis dans la prison, et là, ils avaient refermé la porte le soir, en pensant que le lendemain matin, ils les retrouveraient. Mais il n'y avait plus rien, il n'y avait plus rien, plus personne. Alors, lorsqu'ils ont entendu ces paroles, au niveau des adversaires, le commandant du temple et les principaux sacrificateurs ne savaient que penser des apôtres et des suites à donner à cette affaire. Ah oui, vous rendez compte? Il était pas fou quand même. Quelquefois, on se prend la tête, on dit, mais je l'ai bien vu, on a bien fait les choses. Comment se fait-il? Ben oui, mais Dieu parle. Et vous savez, même dans un psaume, il nous est dit que Dieu se rit des hommes. Eh oui. Parce que quand vous mettez un objet, admettons, dans un endroit, et vous savez que vous l'avez mis là, et vous revenez peut-être quelques temps après que vous ne l'avez pas mis, vous l'avez plus, vous le voyez plus, vous dites, voilà, bah vous soupçonnez quelqu'un de l'avoir enlevé, hein, ça c'est sûr. Mais des gens qui sont en prison, comment ont-ils pu sortir de la prison alors qu'il y avait des portes de fer, qu'il y avait des gardes, et que là, ils se sont volatilisés. Et ils étaient perplexes dans cette situation. Quelqu'un va leur dire, voici les hommes que vous avez mis en prison, sont dans le temple et ils enseignent le peuple. Qu'est-ce que l'on peut faire? On leur tord le cou, quoi. Hein? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ce qu'ils avaient fait. Ils avaient été pris prisonniers en raison des enseignements. On les met en prison pour qu'ils se taisent, qu'on ne les entende plus. Et puis finalement, ils en sortent et ils continuent à faire ce qu'ils devaient faire. Vous savez, il y a une chose qui est certaine, c'est que, et ça, faut bien le dire, quand ils étaient convaincus, les apôtres, hein, qu'ils avaient une mission. Mais moi, je pense que quand on a une mission, quand Dieu nous met quelque chose à cœur, non pas par fanatisme ou prosélytisme, mais vraiment quelque chose, je peux vous dire qu'on peut rencontrer des oppositions, on peut être maltraité, on peut être injurié, on peut être jeté en prison d'une manière ou d'une autre, c'est une question de temps. Bon là, ça a été très vite, hein. Ils ne sont pas restés longtemps. Mais une chose qui est certaine, c'est que de toute manière, Dieu nous ouvrira toujours une voie quand les hommes la ferment, cette voie. Vous savez, hein, dans les livres de l'Apocalypse, il est dit ceci, c'est au chapitre 2, me semble-t-il. Il est dit que quand Dieu ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Et quand finalement elle est ouverte, personne ne peut la fermer. Et ça, je pense que c'est la conviction que nous devons avoir. Vous savez, on ne sait pas ce qui nous attend dans notre monde. Aujourd'hui, on a encore la possibilité de nous réunir, de pouvoir enseigner la parole de Dieu, de pouvoir prier ensemble, de pouvoir adorer le Seigneur. C'est pour ça que c'est quand même dommage quand on néglige, bah, c'est pas votre cas puisque vous êtes là, mais quand on néglige en disant, bon, wow, je peux prendre un peu de distance et tout ça, parce que le jour où ça n'existera plus, ça, je peux vous dire que peut-être qu'on dira, mais si j'avais été peut-être un peu plus, si j'avais pris conscience de l'importance finalement de cette présence de Jésus au milieu des enfants de Dieu réunis, et que ça n'existe plus, parce que vous savez, il y a actuellement dans certains pays, où les chrétiens sont sauvagement, je ne parle pas des chrétiens de nom, mais je parle des chrétiens finalement de conviction comme nous, avec une foi, une nouvelle naissance, avec une expérience avec Jésus. Et aujourd'hui, ils sont obligés de se cacher, et je peux vous dire que c'est quelque chose qui n'est pas simple. Mais ils sont courageux, ils tiennent ferme. Hein. Et pendant que nous avons la liberté aujourd'hui, profitons-en, parce que ça ne durera peut-être pas très longtemps. On s'aperçoit que les nuages commencent à noircir, à s'obscurcir au-dessus de nos têtes. Hein. Et on se dit, et tout le monde le partage, quand on regarde des informations, on se dit, mais vous savez, on est à peu de choses que tout ça, ça éclate, parce qu'aujourd'hui, c'est pas un conflit ici, c'est le cas naturellement, encore sur notre terre. Mais à un moment donné, ça peut être tout s'enflamme, tout parte. Vous savez que, on a des gens qui sont pas raisonnables. C'est bien dit comme ça, c'est mieux que de dire ce que je pensais. Mais bon, mais c'est vrai, hein, c'est fou, hein. Vous vous rendez compte, quelquefois, moi, bon, je suis comme tout un chacun, hein, je prends les informations, on n'a pas, mais il suffit de peu de choses quand il s'agit de ces hommes qui sont élevés en dignité, en pouvoir. Et un pouvoir de vie et de mort, parce que bon, on peut pas dire autre chose, et qui ont entre les mains une puissance de feu extraordinaire. On se dit, pourvu que ce soit le Seigneur qui les inspire. Parce que si c'est l'autre, quand pour une petite contrariété, quand il y a des invectives, et quand on se lance à la figure, hein, toutes sortes de diatribes en disant c'est moi le plus fort, et c'est moi le plus fort, ça fait de la surenchère, vous savez, ça finit toujours mal. Et on ne l'aurait peut-être pas pensé 15 ans avant, hein, que notre monde serait comme ça en 2017. Hein. Et on ne sait pas ce que sera 2018. N'ayez pas peur. Prenez courage. J'ai vaincu le monde. Hein, je vous le dis au passage. Parce que c'est vrai que c'est terrible, hein, ce qui se passe. Et les premiers chrétiens, à l'époque de l'Empire romain, mais là, l'Empire romain n'était pas impliqué encore dans cette affaire, au chapitre où nous sommes. Mais quand vous voyez que ce sont vos concitoyens, les juifs, les principaux religieux, les autorités de Jérusalem qui persécutaient de simples citoyens parce qu'ils étaient tout simplement chrétiens évangéliques, parce qu'ils croyaient en Jésus-Christ, on se dit, mais où est le monde, là? On marche à l'envers, hein. Et je crois qu'on marche pas mal sur la tête en ce moment. Toujours est-il. Alors, donc, il nous a simplement dit, ils enseignaient le peuple. Alors, le commandant partit avec les huissiers, il les conduisit avec eux, il les conduisit sans violence. C'est-à-dire qu'ils ont, ils ont récupéré, ils les ont pris dans le temple, ils étaient en train de prêcher, il devait y avoir encore un auditoire certainement important. Et là, ils ont mis encore la main sur les disciples, mais ils leur ont dit, écoutez, monsieur, passez devant, hein. Parce que vous allez voir pourquoi, hein. Car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. C'est pour vous dire que le peuple, c'était un peuple de croyants, hein. Et ils respectaient les autorités. Parce que pourquoi? Parce que le fait des miracles, des prodiges, de la parole de Dieu, de la sincérité, de la véracité des disciples, de l'authenticité de leur foi, eh ben, ça avait retourné le cœur de la nation d'Israël. Enfin, de ceux qui étaient à Jérusalem. C'est quelque chose de formidable, hein. On peut le dire. Alors, ceux qui voulaient faire un petit peu la police dans cette affaire, les museler et voire les éliminer, bah, ils craignaient le peuple parce que ils savaient pas comment le peuple pouvait aller réagir. Mais ne faisons jamais conscience au peuple. Non, faut pas écouter les hommes. D'ailleurs, on va le voir d'ici quelques instants. Parce que l'homme, il dit oui aujourd'hui et demain, il est capable de dire le contraire. Quand Jésus, quelques heures avant sa crucifixion, on l'a acclamé, hein, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. On enlevait ses vêtements, on mettait des feuilles de palmier pour lui faire une haie royale. Ce sont les mêmes, quelque part. Quelques heures après, on dit, mais crucifie-le, hein. Et vous savez, le monde, il est comme ça aujourd'hui, hein. Alors, d'autant plus, nous, chrétiens, si nous avons une parole, gardons finalement la parole que nous avons donnée, hein. Ne soyons pas versatiles en changeant en fonction des courants d'air et de la direction du vent, hein. Donc, c'est ce qui se passait, et le peuple, faut s'en méfier. Après qu'ils les eurent amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur, les interrogeant en ces termes, et on va le partager, ils vont dire, ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner dans ce nom-là? Et de quoi ils se mêlaient? Et de quelle autorité ils pouvaient dire, eh bien, taisez-vous, parce qu'on ne voulons pas que vous parliez de Jésus-Christ. C'était eux-mêmes qui avaient crucifié Jésus. Vous vous rendez compte? Alors donc, Jésus est embarrassant. Jésus est dérangeant. Jésus, pour ceux qui n'aiment pas la vérité, mais c'est un véritable casse-tête, hein. On comprend qu'ils l'ont crucifié, parce que Jésus a donné quand même un sacré coup de pied dans la fourmilière de l'hypocrisie religieuse. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous pourrions dire? J'en dis pas plus. Mais une chose qui est certaine, c'est que là où les hommes n'ont pas un cœur de vérité, n'aiment pas la vérité, automatiquement ils vont devenir non seulement jaloux, mais ils vont devenir méchants, jusqu'à faire mourir, hein. Et ça, c'est une des réalités qui a traversé le temps. Hein. Et ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner dans ce nom-là? Et qu'est-ce que les apôtres enseignaient? Ils enseignaient dans le nom de Yahvé. Ils enseignaient selon les principes de l'Ancien Testament, c'est-à-dire la loi et les prophètes. Mais ils ne connaissaient pas Jésus. Et quand on ne connaît pas Jésus, on ne connaît rien du tout. Et on est ignorant et on devient méchant. Et voici, vous avez rempli, parce que là c'est quand même un compliment, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Mais c'était que la confirmation de tout ce qui avait été dit pendant des siècles et des siècles, à travers les livres de l'Ancien Testament, les prophètes de l'Ancien Testament. Jésus est la réalisation, Jésus est le Messie des Juifs. Les oreilles, les yeux, tout était fermé chez eux. Hein. Vous vous rendez compte? Ils étaient coincés dans leur institution religieuse, qu'ils avaient calcifiée, qu'ils avaient fermée, qu'ils avaient confisqué, et que finalement, eh bien, pour eux, on ne pouvait venir dans le ciel de Yahvé, dans le ciel du Dieu d'Israël, que si ça passait par leur enseignement à eux, et à travers leurs rites, leurs traditions, etc., etc. Aujourd'hui, c'est exactement la même chose dans la pseudo-religion chrétienne. C'est pas vrai? Ah oui? C'est pour ça qu'il y a ce slogan, que tous les chemins mènent à Rome. Non. Certainement pas. Certainement pas. Il y a un chemin, une vérité qui donne la vie, c'est Jésus-Christ. Nul ne vient au Père que par moi. C'est clair. Et pourtant, ça subsiste, ce rejet de la vérité, de ce qui est juste. Hein. Vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Bravo. Vous connaissez pourquoi je tape dans mes mains? Pour la bonne raison que c'est eux à la croix. Quand il fallait choisir entre Barabbas et Jésus, on dit « Crucifie Jésus et que son sang retombe sur notre tête !» C'est facile d'accuser les autres. Hein. C'est facile de trouver un prétexte. C'est eux. Eh bien, ça n'a pas manqué. 70 ans. Après, les armées de Général Titus, qui est devenu ensuite empereur à Rome. Mais Général Titus, quand il est arrivé en Palestine, il a passé toute la Palestine, finalement, au fil de l'épée. Le temple a été complètement mis par terre. Il n'a jamais été reconstruit depuis. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des morts à profusion. Et c'est là où le peuple d'Israël s'est trouvé en diaspora, s'est répandu dans toutes les nations du monde. À partir de ce moment-là. Ce qui est formidable, c'est de savoir qu'en 1948, le peuple d'Israël s'est reconstitué. Signe des temps, Jésus revient bientôt. Ça, c'est clair. Hein? Retombez sur nous le sang de cet homme. Je termine. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il fallait pas mettre trop sa confiance dans les hommes. Parce que si vous voulez vous faire berner, si vous voulez vous faire avoir, si vous voulez faire raconter des histoires et mener de droite et de gauche, vous faire balader, on peut dire ça comme ça, eh bien, il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Parce que s'ils avaient écouté finalement ceux qui les avaient là, leurs adversaires, en disant ben, « on va se taire maintenant, on va rester tranquille, hein, on ne veut plus aller en prison, hein, surtout, mais laissez-nous en liberté et on ne dit plus rien ». Ben non, justement, le chrétien authentique qui a reçu la mission de parler de Jésus et d'annoncer comme Jésus comme sauveur, eh bien, on n'a pas à se taire. On n'a pas à avoir honte, finalement, de l'évangile, comme Paul le dira dans l'Épître aux Romains. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères. Alors, voilà, on a la suite. C'est les apôtres qui parlent. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus. Ah oui, mais là, ça dérange. Hein. Parce qu'ils avaient pourtant crucifié Jésus, ils croyaient bien qu'il était mort. Hein. Et ils ont manigancé toute une histoire pour faire croire qu'il avait été enlevé. Ils ont même payé les soldats pour dire « ne dites rien, parce que bon, ça c'était une affaire mystérieuse. C'était véritablement, eh bien là, quoi écrire un roman policier. Hein. » Oui, le Dieu de nos pères, c'est-à-dire nous, les Juifs, eh bien, a ressuscité Jésus, mais c'est vous qui l'avez tué. Et vous êtes encore capable aujourd'hui de tuer tous ceux qui s'opposent à vous en annonçant le message de l'Évangile, en le pendant au bois, c'est compréhensible, c'est la crucifixion. Mais Dieu l'a élevé par sa droite, sa puissance, la droite, hein, comme prince et sauveur, pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes au cœur du message de l'Évangile. Repentez-vous. Demandez pardon à Dieu. Et Dieu ne refusera jamais de pardonner celui qui se repent sincèrement. Le pardon des péchés par la repentance. Message essentiel, message principal. qui aujourd'hui veut entendre encore ce message? Il n'y en a pas beaucoup, hein. Autrement, on serait complet ce soir, hein. Je ferai deux séances. Enfin, j'en ferai qu'une parce que quelqu'un prendra ma place après. Mais, eh oui, hein. C'est quelque chose qui dérange, ça. Pour venir à Dieu, il faut venir dans l'humilité, non pas dans l'orgueil, non pas avec une prétention d'avoir une religion, parce que ça ne sert à rien, et de venir humblement, de se mettre devant le Seigneur et de dire « Oui, Seigneur, je te demande pardon. Et je crois que maintenant tu me pardonnes puisque je t'ai demandé pardon. » C'est pas une question de confession, là, à un homme, certainement pas. Et je termine, nous sommes témoins de ces choses. Et si certains pouvaient dire « Mais nous, ce que nous disons, nous le savons parce que nous l'avons vu, nous l'avons connu, nous avons vécu avec Jésus. » Nous savons qu'un jour nous l'avons vu sur une croix, mais trois jours après, nous l'avons vu aussi ressuscité. Et il nous a donné le mandat de dire au monde entier, à travers tout l'espace et le temps, que finalement il est vivant. Et c'est ce qui a fait que le christianisme depuis 2000 ans continue à faire son chemin et se répand de plus en plus. Pas le christianisme de l'esprit, pas le christianisme rituel, traditionnel, comme les religions l'ont renfermé, parce que là ça ne sert pas à grand chose, sinon à donner des illusions. Car nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit. Parce que vous savez les miracles, la puissance de la prédication, tout ce qui se passe, sortir miraculeusement de la prison, pouvoir parler sans crainte et d'affronter les autorités qui veulent vous maltraiter et qui veulent vous détruire, ben ça c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous donne la force, il nous donne l'autorité, il nous donne le mandat et il nous donne... Et il nous accompagne lorsque nous prêchons l'évangile par des signes, des miracles et des prodiges, naturellement. Alors, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. C'est une belle promesse, hein, parce que c'est l'obéissance. Oui, je crois et j'obéis. On ne peut pas dissocier l'un de l'autre. Et je termine simplement à travers ce retour, tout simplement à Jean 16, et ça sera la conclusion. Quand il est dit ceci, je prends le verset 32. « Voici l'heure vient, et elle est déjà venue, et cette heure est déjà passée. » C'est pas une heure, c'est des jours, des siècles, parce que nous sommes maintenant dans la pleine dispensation du salut. Hein. « Cette heure, elle est déjà venue, où vous serez dispersés, chacun de son côté. » C'est ce qui se passe, hein. L'ennemi, à travers toutes sortes de puissances, de toutes sortes de pressions. « Et vous me laisserez seul. » Jésus parle de son... de ce qui lui est propre, mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Il faut se dire, comme nous l'avons vu tout à l'heure, le succès, la bénédiction de Dieu rencontre l'opposition. Et si vous voulez voir la fiabilité et la véracité, l'authenticité de votre foi, c'est parce que vous pourrez le mesurer, parce que vous êtes persécuté. Voilà, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. C'est bien Paul qui nous le dit. Et si quelqu'un sait ce que c'est que la persécution, c'est lui. Ça, c'est clair, hein. Paul, il avait à son actif quand même pas mal d'ennemis, car le Père est avec moi. Et je crois que le Père est aussi avec nous lorsque nous voulons proclamer l'Évangile. Et ne soyons pas surpris que nous nous retrouvions dans une fournaise ardente, comme nous dit Jacques ou Pierre, je ne sais plus lequel, mais que finalement c'est un signe de la véracité et de l'authenticité de notre foi, parce que ce que nous disons, ce que nous vivons, eh bien ça dérange, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Ne craignons pas. On risque de voir des choses assez étranges et des choses qui seront difficiles, hein. Il me semble, hein, comme peut-être nos précurseurs ou nos prédécesseurs en ont vu, hein, parce qu'ils voulaient garder la foi, ils voulaient vivre leur foi, tout simplement. Alors, vous avez la foi en moi, vous aurez des tribulations dans le monde. On vient d'en avoir un petit exemple à travers l'Église primitive, là. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Si nous avons Jésus avec nous, qui sera contre nous? Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous donne sa grâce. On va prier quelques instants, si vous voulez bien. Seigneur, nous voulons te remercier et te bénir parce que nous oublions très vite, Seigneur, qu'en effet, l'héritage qui est le nôtre aujourd'hui, c'est un héritage qui a été en effet acquis à un prix très, très lourd, à un prix, Seigneur, qui a une grande valeur. Parce que, en effet, tu nous dis que l'Évangile, c'est le sang des martyrs. C'est le sang de tous ceux qui ont été courageux, qui, en effet, ont eu la capacité de résister lorsque on leur demandait de renier, on leur demandait d'adjurer, on leur demandait de se taire. on leur demandait de ne pas parler de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que nous ne mesurons jamais assez que le privilège aujourd'hui, 2000 ans et plus après, qu'en effet il y a encore des chrétiens. Il y a encore des hommes et des femmes, non pas qui sont chrétiens de tradition, de nom ou d'étiquette, mais qui sont chrétiens de cœur, en ayant en effet s'être repenti, en ayant reçu le pardon des péchés, confessé leurs fautes, non pas des hommes dans une église, mais confessé directement à Dieu, en croyant que le sang de Jésus nous libère, nous pardonne, nous lave de toute offense. Seigneur, nous te remercions parce que tu nous as donné une vie nouvelle, on l'appelle la nouvelle naissance. Nous te bénissons et nous te rendons grâce parce que ces hommes d'hier, courageux, il nous est dit qu'ils étaient remplis de foi et d'Esprit Saint. Eh bien, Seigneur, c'est ce que tu veux encore pour chacun d'entre nous. Et moi, je veux te dire merci pour la liberté dans notre pays encore. Je veux te dire merci, Seigneur, pour, même si nous ne sommes pas d'accord avec tout, même si véritablement, eh bien, les choses ne se passent pas comme selon l'Évangile, mais à des hommes qui ne sont pas convertis, on ne peut pas les mettre sous la même règle. Mais une chose qui est certaine, c'est que tu nous donnes encore, en effet, librement, la capacité de nous réunir, la capacité de chanter Jésus, d'annoncer Jésus. Et nous t'en bénissons et nous te remercions. Ça n'a pas été le cas à travers des siècles où des hommes et des femmes ont été brûlés, ont été mis en prison, ont été malmenés, maltraités, Seigneur, qui ont subi toutes les hontes et toutes les ignominies, Seigneur, de leurs adversaires. Eh bien, Seigneur, dans le nom de Jésus, nous voulons te rendre grâce parce que ce que nous avons aujourd'hui, eh bien, Seigneur, c'est parce que d'autres ont payé le prix fort et nous t'en bénissons et permets que tu nous gardes fidèles jusqu'au bout, Seigneur, dans un monde qui vacille actuellement. Mais Seigneur, nous croyons que nous avons la paix en Jésus-Christ. Nous croyons, Père éternel, qu'il y a des tribulations dans le monde. Mais nous croyons aussi que toi, tu nous as dit, prenez courage, parce que j'ai vaincu le monde. Merci, Seigneur. Amen. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.